Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Jean-Baptiste avait pour mission de préparer la venue du Messie en prêchant la repentance et en annonçant la venue du Messie de manière imminente. Il savait que le Messie, le Fils de Dieu, allait venir. Quand il vit Jésus venir à lui, il en eut la conviction parce que le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Il comprit que c'était lui. Il avait reçu cette parole du Seigneur. J'imagine qu'il pointa alors son doigt vers lui et il fit cette déclaration « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le lendemain, Jean-Baptiste fit la même déclaration quand il vit Jésus repasser devant lui. Cela montre que la déclaration de la veille n'avait pas été faite sous le coup d'une émotion. Elle signifiait le démarrage du ministère de Jésus et elle pointait vers ce que Jésus allait faire. Jean-Baptiste voulait dire quoi ? En présentant Jésus comme l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, quand nous parlons d'une personne comme un agneau, nous voulons dire qu'elle est douce ou qu'elle est gentille, voire innocente. Mais ce n'est pas ce que Jean-Baptiste voulait dire. Et ce n'est pas comme cela que les auditeurs présents ont compris cette déclaration. Dans cette déclaration de Jean-Baptiste, je voudrais que l'on s'arrête sur les quatre mots qui me paraissent les plus importants. D'abord, le premier mot. Le mot « péché ». Là, nous avons le problème. Voilà le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la faim. Le problème de l'humanité, le problème de chacun d'entre nous, le problème de vous qui m'écoutez, c'est le péché. C'est le péché qui cause bien des souffrances. Du temps de Jean-Baptiste, le problème numéro un était le péché. Aujourd'hui encore, le problème numéro un est le péché. Rien n'a changé. Les progrès de la science, les progrès de la connaissance, les progrès de la technologie ont apporté des changements notoires dans la qualité de l'existence. Mais ils n'ont pas changé le cœur de l'homme qui est toujours dominé par l'égoïsme, l'orgueil, la convoitise, les passions, le mensonge et la liste pourraient être continués. C'est quoi le péché ? Les Hébreux se trompaient facilement sur le péché, sur leur péché. Aujourd'hui encore, on se trompe facilement. La Bible utilise plusieurs images pour décrire le péché. Il est comparé à de la boue qui nous salit. Il est comparé à un mur qui fait écran, barrière. Le péché est comparable à une dette que l'on ne peut pas rembourser et qui va nous envoyer en prison si personne ne la paye. Le péché est comparé à la lèpre, une maladie grave et mortelle qui s'étend sur tout le corps. J'aurais envie de dire aussi comme un virus qui se communique facilement. Le péché est comparable à une chaîne qui nous empêche d'être libres. Le péché est comparé à une loi ou à une force qui nous tire vers le bas et qui nous empêche de faire ce qui est bien. Le péché, c'est cette force en nous qui nous fait faire ce que Dieu ne veut pas, qui nous incite à ne pas faire ce que Dieu veut, qui nous fait refuser la main tendue de Dieu et vivre de manière anarchique. Le problème avec le péché, c'est qu'il nous atteint tous, parce qu'il est en chacun de nous. Le problème avec le péché aussi, c'est qu'il se propage à l'intérieur de nous, pervertissant tout, nos réflexions, nos désirs, nos émotions, sont souillées par le péché, nos paroles, notre conduite, notre caractère. Le problème avec le péché, c'est qu'il est plus fort que nous, plus fort que notre éducation, plus fort que nos bonnes résolutions, plus fort que notre bonne volonté, plus fort que notre raison. Personne ne peut s'en débarrasser par lui-même. Et le problème avec le péché, c'est qu'il nous condamne. Il nous envoie en enfer si on ne fait rien, si rien ne se passe. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». La suite nous dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ ». Le salaire du péché, c'est la mort dans le sens qu'il provoque une séparation éternelle d'avec Dieu. Le deuxième mot qui est important dans ce texte, c'est bien sûr le mot « agneau ». Là, nous avons la solution de Dieu, la solution que Dieu nous propose. Je reviens sur l'une de mes interrogations du début. Les Juifs ont-ils pu comprendre ce que Jean-Baptiste voulait dire ? La déclaration de Jean-Baptiste présentant Jésus comme un agneau, même si elle ne pouvait être comprise en sa totalité parce qu'on ne savait pas encore ce que Jésus allait faire, cette déclaration avait quand même du sens pour les Juifs. Et en l'entendant, plusieurs connexions avec le passé, avec leur histoire ou avec la parole ont dû se faire. Certains ont probablement dû penser à l'agneau pascal lors de la délivrance de l'Égypte, alors que tous les premiers-nés égyptiens furent exterminés. Tous les premiers-nés hébreux furent épargnés parce que protégés par le sang d'un agneau qui avait été mis sur les linteaux et sur les montants des portes des maisons. D'autres, en entendant cette parole, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ont dû se rappeler cette parole mystérieuse d'Ésaïe. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Cette parole était mystérieuse pour tous les Juifs. Mais avec la venue de Jésus, elle allait prendre son vrai sens. D'autres, en entendant Jean-Baptiste, ont dû penser à la question d'Isaac. Cette question qu'Isaac a posée à son père alors qu'il se rendait sur le mont Morija. L'Éternel avait parlé à Abraham et lui avait demandé de sacrifier son fils. Abraham s'est exécuté et ils étaient sur le chemin. Ils allaient sur le mont Morija. Et à un moment donné, Isaac a posé une question à son père. Il dira, « Nous avons du bois, nous avons du feu, mais où est l'agneau ?» Une question pertinente. Abraham fut gêné pour répondre et il dira, « Dieu pourvoira. » Tous ceux qui ont entendu la parole de Jean-Baptiste ont certainement fait le rapprochement avec cette question. Et là, Jean-Baptiste est en train de donner la réponse. Où est l'agneau ? Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tous ont inévitablement fait le rapprochement avec les sacrifices qui se faisaient dans le temple. Chaque matin et chaque soir, un agneau était sacrifié dans le temple pour les péchés du peuple. C'est consigné dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, versets 38 à 42. Aussi, quand on passait à côté du temple, ça sentait toujours le brûlé, l'odeur du barbecue. Même si peu de gens ne pouvaient pénétrer dans l'endroit où le sacrifice était réalisé, elles ne pouvaient voir le feu qui était sur l'autel. Mais c'était ordonné par Dieu depuis Moïse, voulu expressément par Dieu pour enseigner comment s'obtient le pardon depuis la Genèse. Dieu a enseigné que le pardon s'obtient par un sacrifice de substitution. Les sacrifices d'agneaux ou d'autres animaux enseignaient comment obtenir le pardon. En présentant Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean-Baptiste annonce clairement que Jésus allait être sacrifié pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Jean-Baptiste annonce dès le départ l'œuvre de la croix, le but principal de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour voir ce qui se passait sur terre. Il est venu afin d'offrir sa vie en rançon pour nos péchés et pour nous ouvrir la porte du ciel. Le troisième mot qui me paraît important, c'est le mot « ôter ». Ce mot nous parle de l'efficacité du sacrifice de Jésus. Les sacrifices d'animaux étaient bons parce qu'ils avaient été institués par Dieu. Mais en même temps, la Bible et le Nouveau Testament nous apprennent qu'ils étaient insuffisants, temporaires et imparfaits pour Dieu. C'était une solution provisoire que Dieu avait proposée, une solution provisoire avec une efficacité limitée, dans l'attente de la solution parfaite, la venue de Jésus. Les sacrifices d'agneaux étaient insuffisants, temporaires, imparfaits. Le sacrifice de Jésus est suffisant, éternel, parfait. Le mot « ôter » est intéressant parce qu'il met le doigt sur l'efficacité du sacrifice de Jésus. Les sacrifices de l'Ancien Testament couvraient seulement le péché aux yeux de Dieu, mais ils ne les enlevaient pas. Et c'est pourquoi il fallait les renouveler régulièrement. Mais le sacrifice de Jésus ôte carrément les péchés. Il les enlève entièrement. Du coup, Dieu ne les voit plus. Le sacrifice de Jésus va jusqu'à nous rendre justes devant Dieu. Il permet notre justification. Le Nouveau Testament va jusqu'à déclarer qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus permet à Dieu de ne plus nous regarder comme des pécheurs, mais comme des justes. Ce petit mot de quatre lettres, ôter, met en évidence la supériorité du sacrifice de Jésus sur ceux de l'Ancienne Alliance, à cause de son efficacité. Et enfin, un quatrième mot qui me paraît important, le mot monde. Ce mot nous parle des bénéficiaires. Jésus a donné sa vie pour tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Nous avons vu tout à l'heure que tous les hommes sont atteints par le péché. Nous avons aussi vu qu'aucun homme ne peut par lui-même se débarrasser de son péché. Nous savons que le péché envoie tous les hommes en enfer. C'est donc logiquement que Jésus-Christ a donné sa vie pour tous les hommes. Christ est mort pour tous, déclare la parole de Dieu. L'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais ici faire deux précisions. La première, du monde, le monde, mais c'est aussi toi. En disant que Christ est mort pour tout le monde, certains pourraient penser ne pas être concernés. Alors je le redis, Christ est mort pour tous, donc il est mort pour toi. Dans le village de Verdun en Allemagne, on peut apercevoir sur le toit de l'église un agneau en pierre, travaillé au ciseau, sans autre décoration. Pourquoi est-il là? Pourquoi a-t-il été sculpté? Lors de la construction de l'édifice, un couvreur qui achevait son travail sur le toit fut déséquilibré par la rupture de la corde retenant son panier de tuiles. Il se serait tué s'il n'était pas tombé miraculeusement sur un mouton qui broutait par là. L'animal perdit la vie en sauvant celle de l'artisan qui, en signe de gratitude, fit réaliser cette sculpture et la plaça bien en vue sur le toit. Christ est mort pour tous. Mais il est mort pour toi, à l'image de ce mouton qui est mort à la place de cet artisan. Et quand je dis pour toi, je veux dire que Christ est mort à cause de toi. Tu as rendu sa mort nécessaire à cause de ton péché. Tu serais tout seul sur la terre. Il aurait fallu qu'il meure à cause de ton péché. Quand je dis pour toi, je veux dire à ta place. Ton péché te condamne. Mais Jésus a pris ta place, il a pris ta sanction. Et puis, quand je dis pour toi, je veux dire en ta faveur. La mort de Jésus-Christ te permet d'avoir la vie éternelle. Et puis la deuxième précision que je veux faire, c'est que Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé, mais c'est celui qui croira. Jean 3,16 dit bien que Dieu a tant aimé le monde, Christ est mort pour tout le monde, mais Jean 3,16 dit aussi que c'est celui qui croira qui sera sauvé. Je termine en disant ceci. Jean-Baptiste, en faisant cette déclaration, annonçait comme un changement à venir, un changement avec la venue de Jésus. Depuis, ce changement a eu lieu. Jésus a donné sa vie sur la croix. Ce changement est définitif. Il est essentiel. Il est éternel. Il a un impact qui va jusqu'au ciel. C'est au point que Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, alors qu'il est vu, même dans le ciel, il garde encore les traits de l'agneau. Réalisez que Jésus a offert sa vie sur la croix pour vous sauver et pour effacer vos péchés. Jésus le seul qui peut mettre un coup d'éponge dans votre conscience, dans votre cœur. Il est le seul qui peut ôter les péchés dans vos émotions, dans votre caractère, dans vos habitudes. Il est le seul qui peut vous débarrasser de la culpabilité, du sentiment de condamnation, de la honte qui va avec le péché. Voilà la plus belle des raisons pour se décider à accepter Jésus. Jésus efface vos péchés. Seigneur, merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et je prie pour qu'à l'écoute de ce message, certains décident de placer leur foi en toi, qu'ils réalisent qu'ils sont des pécheurs, mais qu'ils puissent réaliser que le sacrifice de Jésus est efficace. Le seul moyen pour être sauvé. Seigneur, provoque la vie. Ouvre les cœurs. Au nom de Jésus, produis la repentance maintenant dans le cœur de celui qui ne l'a pas expérimenté. Suscite la foi et communique la vie nouvelle. Amen.